Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graphisme, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est des véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrain Vague. Salut Alice en régie qui a remplacé Tom. Et ce matin, enfin non, ce soir, parce qu'en fait c'est ce soir, j'ai la chance d'accueillir Jean-Pierre Besombe, Vaille, c'est comme ça qu'on prononce ?
Oui.
Bonjour Jean-Pierre, conseiller à la DRAC Occitanie et enseignant à la fac aussi.
Oui, accessoirement.
On va y venir. Bonjour Jean-Pierre et merci beaucoup d'être venu au micro de Terrain Vague. Ça me fait très plaisir de t'accueillir.
Bonjour à Divergence.
on va revenir sur ton parcours parce que je pense qu'il est riche. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est riche. Tu enseignes d'abord ou tu es d'abord conseiller à la DRAC?
Comment? Ah non, moi je suis conseiller à la DRAC. Okay. Et j'ai pris les cours lorsque l'ancien directeur adjoint en DRAC, qui intervenait à la fac, a arrêté. Il a souhaité que ce soit moi qui reprenne la main, puisque c'est sur la politique des publics essentiellement, et les politiques culturelles.
Ok, tu interviens dans quel, en master, en licence?
En master, 1 et 2, oui.
Ok,
en
études culturelles.
Avec Emmanuel Négrier, voilà.
Ok, études culturelles, j'imagine.
Oui, c'est sur le master. Il y a deux masters. Il y en a un qui est plus orienté vers la création et la gestion des œuvres, et l'autre qui est plus orienté vers le patrimoine et les métiers du patrimoine. Mais dans les deux cas, j'interviens sur une problématique relative au droit d'accès à la culture, quoi. Okay. Et aux politiques des publics.
Ok, et ça fait partie des missions aussi que tu as au sein de la DRAC ?
Alors, c'est pleinement mes missions au sein de la DRAC, la question de l'accès à la culture.
Raconte-nous un petit peu en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu fais ?
Oui, moi je suis conseiller, et le nom dit tout, action culturelle et territoriale. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire, notre mission consiste essentiellement à développer et à accompagner des dispositifs ou des projets ou des initiatives de territoire qui permettent de faire valoir le droit à la culture et l'accès à la culture, on va dire.
Okay.
Voilà. Puisque dans la Constitution de 1946, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la culture ayant joué un rôle fort dans la résistance, mm-hmm. dans la résistance contre une vision hégémonique de la culture, elle s'est battue pour la diversité et l'expression des peuples, eh bien, la culture est devenue un droit dans la Constitution, au même titre que l'éducation, le droit à l'éducation et le droit à la formation.
Okay.
Et ça a été confirmé après dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948.
Ouais.
Voilà. Et après, ça a été renforcé,
ouais.
Consolidé, voilà, par une diversité de textes sur la lutte contre les inégalités et les discriminations et autres.
Ok. Et justement, pour faire de la culture quelque chose d'accessible au plus grand nombre, puisque c'est de ça qu'on parle un petit peu. Quelles sont les actions clés ou les actions phares de la DRAC, justement, pour amener les publics à la culture?
Alors, voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que, d'abord, la DRAC prend en compte la totalité des individus et des populations, mm-hmm. Quelles que soient leurs origines, leurs catégories sociales ou autres.
Okay. Zéro discrimination.
Voilà, zéro discrimination. On accompagne l'ensemble des habitants et des habitantes, des citoyens, si je puis dire, vers la culture. Mais il y a des approches spécifiques, mm-hmm. pour des contextes spécifiques et en direction de publics prioritaires.
Okay.
C'est-à-dire qu'on va prioriser, à un moment donné, un certain nombre d'habitants, des types de populations qui peuvent être éloignés de l'accès à la culture. Et on essaie de faire valoir le droit et de travailler l'accès pour ces personnes-là. Alors ça peut être pour les personnes sous main de justice, comme on dit, en détention. Ça peut être en contexte sanitaire, à l'hôpital, pour des raisons de santé. Ça peut être dans le contexte du médico-social. Ça peut être après sur une diversité d'entrées territoriales, le rural très éloigné des grands équipements ou des équipements, ou des territoires urbains.
Oui, de manière plus proche, des, ce qu'on appelle les QPV, les quartiers prioritaires.
Voilà, les quartiers politiques de la ville, voilà, qui font l'objet d'un contrat de ville et dont les populations sont en dessous du seuil de pauvreté. Voilà. Mais ça peut être aussi de travailler, comme je le fais avec sur le pacte des solidarités, avec le commissaire au plan de lutte contre la pauvreté, Éric Pélisson, pour là aussi réfléchir à comment faire valoir ce droit à la culture pour, alors ça peut être des populations tziganes, ça peut être des populations qui, pour diverses raisons, là aussi, liées à la pauvreté ou à la précarité, à des formes de pauvreté sociale ou d'isolement, des personnes âgées en milieu rural, par exemple, vont être en difficulté et vont peiner à accéder à une offre, à une ressource culturelle, on va dire. Et il y a bien évidemment la question des droits culturels en filigrane qui va se poser, mais c'est une autre approche, quoi.
Okay.
C'est une autre approche puisqu'elle est plus liée aux politiques onusienne, donc de l'UNESCO, et elle est plus liée à la déclaration des droits culturels de Fribourg. Elle repose aussi sur les droits fondamentaux, mais c'est une histoire qui s'est construite plus à une échelle internationale. Et la France, avec les lois NOTRe, les lois LCAP après, s'est positionnée au niveau gouvernemental à cet endroit-là. Alors que le droit à la culture, il date de la Constitution de 1946 et il est rappelé, si je puis dire, dans les arrêtés, alors dans celui en 59 de la création du ministère des Affaires culturelles. L'entrée n'était pas forcément celle-ci, elle était sous-jacente, mais c'était le ministère des œuvres, hein. C'était l'accès aux grandes œuvres de l'humanité et autres. Par contre, avec le ministère de la Culture, en 81, avec le ministère Langue, là, l'affirmation de ce droit-là, il va être plus prégnant. Et c'est là que le ministère Langue va créer l'ensemble des politiques interministérielles. Pour favoriser l'accès à la culture, puisque d'une certaine manière, notre métier, c'est de comprendre les métiers de ceux qui ont les personnes en charge pour créer les conditions d'accès à la culture, pour permettre à des artistes de pouvoir développer un projet. Un hôpital, c'est pas en premier lieu un lieu, un endroit où on va travailler l'accès à la culture, où on va développer la culture. Voilà, le métier des soignants, le métier du personnel hospitalier, il porte sur autre chose. Et donc, si on veut que l'expérience puisse aboutir, il y a ce travail préalable à faire. Idem dans le domaine du médico-social ou en détention. Donc, il y a des contextes spécifiques à travailler, mais après, les personnes ne sont pas assujetties à une étiquette en situation de handicap. Après, dans la société civile, tout le monde est brassé, tout le monde vit ensemble, et la notion de public, elle est très générale.
Et très large pour le coup.
Elle peut être segmentée à certains endroits pour intervenir dans des champs spécifiques, mais après, tout citoyen a les mêmes droits, et on retrouve la masse et l'ensemble de la population et des publics autour des politiques culturelles qui sont mises en place par les collectivités, souvent auxquelles on contribue, par les collectivités ou par des fois de manière autonomes par des structures type associatif ou des mouvements associatifs. Mmh. Ou...
Bah, c'est notre cas du coup chez Line-Up, puisqu'on bosse avec la DRAC depuis un certain temps maintenant, et sur des projets qui sont pour le coup hyper hyper variés, parce qu'on peut intervenir très localement dans des quartiers politiques de la ville via le dispositif été culturel par exemple, comme on l'a fait déjà plusieurs fois, mais on intervient aussi, bah, comme tu disais, en milieu hospitalier avec le dispositif culture et santé. C'est notamment le cas au CHU de Montpellier, où on a fait de nombreuses œuvres murales, et en milieu carcéral aussi, avec Culture et Justice, du coup, où on a fait intervenir plusieurs artistes sur le quartier mineur, sur le parloir. Voilà, on est intervenu, et là, en ce moment, on intervient dans un foyer aussi avec Dr Ponce. Quelle est la place, mais comment se manifeste cette volonté de faire intervenir l'art urbain dans ces lieux-là, qui, comme tu disais tout à l'heure, ne sont pas forcément les lieux auxquels on pense en premier pour amener de l'art, hein. Et pourtant, ça cadre tout à fait avec les principes et les valeurs portées par Line-Up, c'est-à-dire que l'art soit accessible à tous et de l'amener là où on ne l'attend pas, surtout. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté-là, justement, d'associer ces lieux avec l'art urbain en particulier ?
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Oui. D'abord, le fait de pourquoi aller vers des lieux spécifiques,
oui,
et pour accompagner l'accès à la culture ou le droit à la culture, alors que effectivement, ce qui est notre mission, c'est de réunir en mixité, de travailler avec le plus grand nombre. Mm-hmm. Voilà. C'est une démarche qui consiste aussi en une sorte d'aller-retour, quoi. Et si on veut que, quelque part, les personnes qui sont dans des contextes spécifiques puissent vivre plus tranquillement ce qu'on va appeler des formes de démocratie culturelle et se retrouver plus, entre guillemets, légitime dans l'affirmation d'un droit à la culture et d'un accès à la culture, eh bien, il y a des fois un accompagnement particulier à faire parce que ça ne va pas toujours de soi.
Mm-hmm.
Parce que le fameux plafond de verre qui est évoqué de... On s'interdit la culture parce que le terme culture fait peur,
oui.
Il renvoie à une notion élitiste.
Complètement. C'est ce qu'on retrouve en tout cas auprès des participants, des gens avec qui on fait ces projets. On ne se sent pas d'aller dans un musée, voilà. On ne se sent pas à sa place. Enfin, il y a cette peur-là en tout cas.
Il y a cette réserve et cette inhibition qu'ont les personnes. Et nous, notre travail, il consiste à œuvrer sur les représentations. Et il est de créer le lien direct entre les personnes et les artistes. Le meilleur médium pour aller vers l'art, c'est quand même l'artiste.
Complètement.
C'est l'artiste et l'œuvre, bien évidemment, mmh, puisque l'artiste et l'œuvre sont indissociables. Mais passer par la pratique, découvrir, ressentir
la sensibilité,
l'esprit de la création, le partager, c'est important et c'est ce qu'on essaie de faire dans tous les contextes que tu évoques.
Mm-hmm.
Et après, il y a plusieurs manières de le faire. Tu évoquais la problématique des musées ou des galeries ou des lieux d'exposition. Bien évidemment, elle est centrale. C'est l'accès aux œuvres dans des lieux qui sont des lieux conçu pour la monstration des œuvres. Et ce sont des lieux de droit commun et ce sont des lieux qui appartiennent à tous, à nous tous. Et donc, se les approprier est une chose qu'il faut encourager parce que c'est le bien de tous. Les révolutionnaires se sont battus pour ça après la Révolution. Concernant le patrimoine, la fameuse phrase de l'abbé Grégoire, le bien d'un seul devient le bien de tous.
Mm-hmm.
Et on a pensé des musées pour justement être sur une sorte de lieu de neutralité, de point de neutralité, et décontextualiser les œuvres par rapport à une valeur symbolique d'usage pour en faire vraiment des œuvres d'art qui appartiennent à tous. Voilà.
Justement, il y a une question par rapport à, on fait ce parallèle entre des lieux d'art où on va voir des œuvres encadrées, accrochées sur des murs, etc. Et on fait des fresques murales dans des hôpitaux, dans des quartiers. Ce changement d'échelle, quel impact ça peut avoir sur la population, enfin sur les gens en tout cas qui le voient? Est-ce que le fait d'avoir de l'art dans l'espace public, c'est peut-être un petit tremplin pour justement aller dans des lieux d'art? Est-ce que ça permet de démocratiser un peu tout ça?
Alors,
ou de le rendre plus accessible?
Le terme de démocratiser, la démocratie culturelle, elle est fondée là-dessus, puisque avec le ministère Langue, en gros, Langue dit il n'y a pas d'art supérieur, il n'y a pas d'art mineur, il n'y a pas l'art, c'est l'art, quoi, mm-hmm. Et toutes les formes d'art doivent pouvoir trouver un lieu d'expression. Donc, quand tu me demandes pourquoi les cultures urbaines, lorsqu'on va vers des jeunes accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse dans un foyer, ou quand on va à l'hôpital en direction là aussi de la jeunesse ou de moins jeunes, mais de personnes qui n'ont pas forcément été sensibilisées à l'art, eh bien c'est parce que l'art urbain aussi est une valeur partagée par un grand nombre de personnes. Mmh. Il représente des valeurs, c'est un phénomène mondial. Hein. On se rend compte qu'au niveau musical, au niveau les fameux 4 ou 5 piliers du hip-hop, on va les retrouver. Et c'est transgénérationnel. Mmh. Il n'y a pas que les jeunes aujourd'hui. Voilà, le rap est écouté par des personnes qui ont 50 ans et plus.
Bien sûr.
On voit que le graffiti et les expressions plastiques qui émanent des arts urbains attirent énormément de public, mm-hmm. y compris des familles.
Ah oui, hein, complètement.
C'est-à-dire que là où on ne va pas forcément se déplacer pour aller au musée, on va aller assister à un événement dans le domaine du graffiti, comme il a pu y en avoir à la Casa Musicale à Perpignan ou ailleurs, ou ce que fait Line-Up aussi.
Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait halluciner, enfin, surtout quand je suis arrivée chez Line-Up, c'est de voir l'âge dans les visites guidées qu'on fait, où on a quand même pas mal de personnes d'un certain âge, finalement, et on se dit que l'art urbain, enfin l'art dans l'espace public, ça intéresserait plutôt les jeunes ou quoi, enfin on s'en fait une image, mais en fait non, les seniors ils sont autant enthousiasmés par ça aussi finalement.
Alors il y a des réactions dans le petit texte qui est passé, les témoignages qui sont passés en début d'émission, il y en a certains qui réagissent en refus d'intervention dans l'espace public. Pourquoi l'espace public est intéressant? Parce que c'est le lieu de l'agora, c'est le lieu du partage, c'est le lieu où on va retrouver aussi, du point de vue de l'urbanisme, une diversité d'éléments architecturaux. C'est la ville, quoi. Et la ville, elle n'est pas homogène, elle est hétérogène, elle a des quartiers, il y a des atmosphères, il y a des lieux.
Il y a des époques différentes dans l'architecture.
Exactement, et l'esprit des lieux, il s'adapte, l'art urbain, donc notamment le graffiti, puisqu'il y a aussi en visibilité dans l'espace urbain, il y a la danse, la recherche de sol adapté et autres donne une visibilité aussi à la danse urbaine, mais il peut y avoir aussi des interventions au niveau du rap ou à d'autres niveaux. Voilà, c'est un tout, l'art urbain, mais c'est vrai que ce qu'on a tendance à voir le plus et de manière la façon la plus manifeste, ça va être le graffiti.
Complètement.
Et également le tag.
Oui.
C'est là où...
Il faut savoir faire la différence.
Alors moi, en 95, j'ai travaillé... Enfin, en 95, non. On a publié aux presses du Languedoc avec Jean-Marie Marconneau, qui est décédé malheureusement, et je lui rends hommage, un ouvrage qui s'appelait « Le langage des murs ». Et on a travaillé donc au début des années 90 sur une approche comparative entre Nîmes et Montpellier.
D'accord.
Autour de l'apparition, l'émergence dans les années 90, fin des années 80, début 90, de ces modes d'expression graphique. Quoi. Mm-hmm. Alors moi, j'ai fait un papier là, qui s'appelait « La villa de Mimo mm-hmm. » sur Montpellier. Et j'ai travaillé avec Bruno Soiris, alias Raymond Salvage, un photographe, okay. qui a produit une collection de photos de graffiti esthétique, mais aussi de tags sur Nîmes et Montpellier, mais beaucoup sur Montpellier.
Et qu'est-ce que ça dit, justement ? Bon, là, je sors un peu de ce que j'avais prévu, mais qu'est-ce que ça dit, cette comparaison entre Nîmes et Montpellier à cette époque-là ?
Alors, bah, la comparaison, c'est comparaison n'est pas raison, hein, mais ça montre qu'à ce moment-là, il y a eu des foyers alors organisés autour de crews, ouais. autour d'équipes, si ouais, je puis dire,
fait,
je ne sais pas comment traduire au crew, de groupe.
Ouais,
quoi.
De groupe, oui.
De groupe qui réunissait une diversité d'art hein, mm-hmm. Liés au hip-hop. Et avec des noms qui commençaient à émerger et sur, entre guillemets, la scène des cultures urbaines du Languedoc-Roussillon, puisqu'on mm-hmm. n'était pas en Occitanie encore.
Tout à fait.
Et on a pu constater ces mêmes phénomènes en termes d'organisation sociale, de groupes qui cherchaient une visibilité, mm-hmm. à la fois par le tag et à la fois par le graffiti. Et beaucoup... durant ces périodes-là, par le tag. Et après, on a pu constater au cours des années 2000 que le tag s'est effacé en partie pour laisser place davantage au graphe esthétique et au graffiti. Mais le tag, on l'interrogeait comme marquage territorial.
Ouais.
Voilà, entre divers types de crew et sur les trajectoires des jeunes, notamment. Mm-hmm. Quoi. Voilà, donc on a pu analyser. Marc Honneau est sociolinguiste, Jean-Marie était sociolinguiste, et lui, donc, a fait un travail comparatif même au-delà. Quoi. Il est remonté au graffiti antique et à l'histoire donc, du graffiti. Quoi.
Ça doit être passionnant.
C'était vraiment un travail très intéressant. Et bon, moi, à l'époque, j'étais. Anthropologue, et je travaillais sur des problématiques liées à l'urbain.
Anthropologue ?
Oui, voilà.
Je savais que tu avais eu mille vies.
Oui, voilà. Et donc, c'est ce qui m'a amené à... Bon, Bruno Soiris, c'est un ami, et Jean-Marie Marc Honneau, donc, on s'est rencontrés là-dessus sur ce sujet d'études.
Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a amené au graffiti ? Enfin, toi, tu viens de l'anthropologie, du coup. Il y en a un qui est sociolinguiste. Comment vous êtes arrivé à cette étude-là ?
C'est Jean-Marie qui vivait d'ailleurs dans une des hubs de Nîmes mmh. et qui a observé ce processus à l'œuvre, qui a rencontré Bruno sur le terrain, si je puis dire, okay. Bruno prenant des photos, très belles photos, un 6-6, un travail de fond, pas que des prises de vue, mais une volonté de rencontrer aussi des graffeurs. Et ensuite, Bruno m'a dit, mais moi, sur Montpellier, je rencontre des graffeurs, mais toi, c'est plus ton domaine de la ville, les analyses des phénomènes urbains et autres. Okay. Donne-moi un coup de main. Et, voilà. Et puis, ça a débouché sur une recherche, des éléments de recherche, puis une publication.
Quoi. D'accord. Voilà.
Et moi, j'étais sur le terrain et j'ai, comme Jean-Marie Marc Honneau, mais n'étant pas sociolinguiste et j'ai pas fait les mêmes liens que lui par rapport à l'histoire du graffiti à travers les âges, mais par contre, j'avais effectivement observé l'émergence de certains noms. Il y avait Sade qui apparaissait beaucoup à l'époque.
Qu'on a reçu ici, et monsieur Nicolas voilà. Xavier.
Et maintenant, voilà, on le retrouve dans d'autres contextes aujourd'hui.
C'est assez étonnant. Il y en a d'autres, à mon avis, que tu as dû voir.
Je te parle des années 80, là, oui, c'est vrai.
Années 80,
sur effectivement, sur la Mousson, sur le centre-ville. Puis c'était. Et après, l'histoire a voulu que. Dans mon parcours professionnel, ça c'était les années 80-90, et puis je ne suis rentré en DRAC qu'en 2006. Quoi.
D'accord.
J'ai fait d'autres choses entre-temps. Et en 2006, quand je suis arrivé en DRAC, c'était le ministre, c'était Don Dieu de Vabre. Ouais. Il venait de lancer la rue au Grand Palais, quelque chose comme ça. Une grosse manifestation nationale autour des cultures urbaines et du graffiti.
Okay.
Et là, on a reçu dans toutes les DRAC injonction de travailler sur les cultures urbaines et de réunir les acteurs des cultures urbaines.
Okay.
Donc, moi, je venais d'arriver et on m'a dit, ben voilà, vous êtes désigné référent cultures urbaines pour le Languedoc-Roussillon.
Ça tombait bien.
Ben oui, moi, ça ne m'a pas vraiment dérangé. En même temps, j'ai pu mesurer qu'en interne à la DRAC, c'était... Et le ministère avait pointé quelque chose d'assez juste. Il y avait beaucoup de représentations sur les cultures urbaines et un vrai sujet à traiter.
Il y avait déjà, en 2006, quand le ministre fait cette injonction,
ouais.
Il y avait déjà quand même du travail d'amorcer dans les DRAC de France sur les cultures urbaines.
Il y avait, alors, mais pas sur toutes les DRAC de la même manière.
D'accord.
Il y avait je pense à Rhône-Alpes, était plus avancé, toutes n'y allaient pas forcément. Il y a plusieurs métiers dans les DRAC. On a tout le secteur du patrimoine, de la création et diffusion, puis l'action culturelle et territoriale. Mais pour nos collègues du patrimoine, c'est un fléau. Parce qu'eux, ils préservent les monuments historiques.
Bien sûr.
Voilà, pour les collègues de la création et diffusion, ce phénomène est un peu perturbateur. Alors, dans le domaine de la danse, la compagnie Kefig qui avait pointé, mais on a cité quelques-uns comme ça, Merzouki. Mais après, pour le reste, c'était encore opaque, quoi.
D'accord.
Et dans le domaine du graffiti, effectivement, on assistait à cette montée d'expression des arts plastiques et visuels dans le domaine des cultures urbaines. Et d'ailleurs, même le terme de culture urbaine, bon, moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Hein. Je suis allé vers les acteurs des cultures urbaines. À l'époque, au niveau de la musique, il y avait Unisson, il y avait
oui.
Habib à la Mosson, il y avait Attitude, Thomas,
donc,
c'était un certain nombre. Mais dans le domaine des arts plastiques, à mon grand étonnement, le jour où j'ai organisé la réunion des acteurs des cultures urbaines, il y a eu énormément de monde qui est venu à la DRAC.
Ah,
mais certains, avec la cagoule et avec l'inquiétude d'être identifiés.
Eh oui, forcément.
Parce qu'il y a le côté délictuel aussi qui plombait la chose.
Exactement.
Et qui, je vois arriver à un moment donné, qui interpelle l'ensemble de l'Assemblée, Hervé Dirossa. Voilà, avec sa casquette, et qui dit, voilà, les cultures urbaines. Et c'était l'époque, la période où le MIAM avait lancé le MIAM sous les bombes, avec une exposition old school au musée Paul Valéry à Sète.
Ouais.
Et Hervé a dit, écoutez, nous, on travaille là-dessus, c'est important, moi, je viens de la street aussi. la prochaine réunion, je vous invite tous à Sète.
Okay.
Et c'est ce qui s'est passé. Et la deuxième rencontre a eu lieu au MIAM. C'était assez étonnant. Il y a eu un mélange des gens à cet endroit-là.
Et des générations déjà, en plus.
Et des générations, oui, c'est ça. Parce que tu as raison de le souligner, oui.
Générations. Déjà, à cette époque, j'imagine, il y avait effectivement des générations très différentes. Il y en avait qui avaient roulé un petit peu leur boss déjà.
Oui,
d'autres
avec
qui
des
débarquaient.
Histoires, la figuration libre, Combas, Dirossa et autres. Alors, je ne sais pas, Robert Combas, s'il revendiquerait le côté street. Mais en attendant, Hervé le fait. Quoi. Il l'a fait et il était présent. Et même, on a continué un certain temps à travailler ensemble. Après, il a été appelé vers d'autres projets, d'autres choses. Mais c'est quelque chose qu'il a affirmé.
Ok.
Voilà.
Il nous reste 2 petites minutes, je crois. Oui, on me fait signe que oui. Si on devait donner en quelques mots comme ça les grandes lignes directrices de la DRAC, ou en tout cas de toi, ce qui t'occupe à la DRAC, en termes d'accompagnement d'artistes, d'accompagnement d'acteurs culturels, etc. Comment on résumerait, comment œuvre la DRAC jour après jour pour accompagner les assos comme Line Up, par exemple en quelques mots, Jean-Pierre.
En quelques mots, mais c'est affreux. Tu me poses une question qui nécessiterait une demi-journée d'intervention.
Les grandes lignes.
Les grandes lignes, c'est de continuer à poursuivre l'engagement pour l'affirmation de ce droit à la culture. Pour le plus grand nombre et de faire en sorte que ceux qui sont les vecteurs de cela puissent être soutenus, puissent continuer à multiplier les expériences. Tu parlais tout à l'heure d'un projet qu'on a mis en place avec mes camarades et collègues de la DDCS
tout
en
à
son
fait,
temps.
Musée dans la rue, ouais.
Voilà, où on a associé le FRAC, où on a associé, on est parti sur 7 villes
du territoire départemental. Ville. Ouais.
Voilà, au niveau départemental, mais aussi avec de la ruralité pour certaines, comme Bédarieux, où il y a à la fois contrat de ville et ruralité, ou Lunel. Et on a essayé dans chacune de ces villes de créer un foyer en mobilisant l'ensemble des habitants. Et là, il n'y a plus de public prioritaire,
non,
d'une certaine manière.
Non, il n'y a plus de frontières.
Voilà, c'est tout le monde qui a été embarqué là-dedans et on a pu mettre en situation des artistes sur chacune de ces villes, en lien avec des lieux culturels ou des lieux d'art, des fois plus tournés vers le patrimoine, mais qui ont joué le jeu. Et ça fonctionne très bien, on se rend compte que
les
barrières sont plus dans les esprits que dans la réalité des faits.
Complètement plus dans la tête que dans l'arrêté. Et effectivement, on a travaillé avec des lieux d'art très variés et on a été très bien reçus. Enfin, ce projet a été très bien accueilli par chacun des acteurs à chaque fois. Donc, on espère que peut-être il y aura un deuxième musée dans la rue.
Mais il suffit de le mettre en place et que ça peut partir aussi d'une initiative de la société civile, quoi.
Je prends note. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'être venu au micro de Terrain Vague. Et merci, Alice. Et merci à tous. Et bonne fête à tous, surtout. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.
Ils s'affichent aussi bien en ville qu'à la campagne. On s'intéresse maintenant au phénomène des tags et des graffitis.
C'est une jolie promenade poétique.
Et sur le mur de l'église, des inscriptions pornographiques à l'encontre de Jésus.
C'est quelque chose de gratuit que les gens peuvent s'approprier.
Bah, regardez, là, c'est pas beau, ça. C'est pas beau, c'est des phrases, il n'y a pas de graffiti, c'est pas beau.
Ce sont des inscriptions obscènes.
On arrête de percevoir les graffeurs comme des délinquants. On s'aperçoit que c'est de véritables artistes.
Bon, ils peaufinent bien leur plan que tels des braqueurs de banque, en fait. Hein.
C'est très inspirant parce que c'est divers, varié.
Mais symboliquement, c'est quelque chose de très fort et de grave, symboliquement.
Terrain Vague, une émission proposée par Laura Marie.